on a une espèce de relation au score, 13%. Quand ton téléphone, il a 13% de batterie, tu cherches un chargeur. Tu ne dis pas que tu vas partir en rando.
Tu viens de publier Gagnon, je l'ai ici, Gagnon, ce livre édité au Petit Matin dans lequel tu reviens sur tes années d'engagement associatif, tes années au pouvoir aussi. Tu dessines dans ce livre les contours et les méthodes d'un programme pour la gauche écologique et sociale. Et tu t'interroges aussi sur l'état de la gauche, on va en reparler avec toi. Tu le rappelles, dans le début de ce livre, ça fait un peu plus de 10 ans que tu as quitté la politique pour rejoindre Oxfam France. Quelles leçons tu tires de cet engagement associatif ?
D'abord, ce que je dis, c'est que j'ai travaillé dans le privé pendant 10 ans. J'ai fait de la politique pendant 10 ans, presque. Et ça fait presque 8 ans que je dirige Oxfam France. Et ce que je tire comme leçon, d'abord, c'est que c'est très agréable. Tout le monde me trouve beaucoup plus sympa. Donc ça, c'était quand même très reposant. Ensuite, ce qui est particulier avec Oxfam, c'est qu'Oxfam France fait partie d'une confédération qui est Oxfam International. Donc moi, j'étais vraiment une pure Française, mais vraiment, quand t'as été chef de parti, en plus, t'as fait la cantonale partielle de Rouen, les municipales de Vierzon, enfin, t'es vraiment ultra Française, et j'ai été basculée complètement dans double dimension internationale, d'abord sur l'actualité internationale, sur le fait de tisser des ponts, mais aussi sur une façon de travailler anglo-saxonne, puisque Oxfam, c'est une organisation qui a quand même une culture anglo-saxonne, et ça, pour une Française, c'est... Ça doit changer. Enfin, on se parle pas de la même manière, on discute pas de la même manière, on négocie pas de la même manière. Donc, je pense que ça m'a beaucoup transformée. Et puis aussi, sur l'aspect français, le monde de la société civile, c'est organisé. Donc, les syndicats, mais surtout toutes les ONG. C'est comme un petit monde qui se connaît bien, où les gens travaillent ensemble beaucoup, se connaissent, passent d'une organisation à l'autre. C'est presque, j'allais dire, presque autant un monde de gens qui se connaissent autant que le monde politique. Mais on a réussi à créer des coalitions assez nouvelles ces dernières années. Et ça, je suis vraiment à la fois très contente et je trouve ça très enrichissant.
Lorraine ?
Moi, ce que je voulais savoir, c'était comment tu as fait pour sortir de cette case de professionnel de la politique ? Est-ce que ça t'a pas collé à la peau dans ta nouvelle fonction ?
Ça me colle toujours à la peau. D'ailleurs, on va discuter après du livre, etc. Mais c'est l'été dernier, en fait, où ça m'a vraiment gonflée. J'ai dit, mais ça fait plus longtemps que je suis directrice générale d'Oxfam que j'ai été secrétaire nationale des Verts. Et jamais je serai une nana de la société civile. Et j'ai une copine qui m'a dit, c'est normal, Cécile, c'est la première impression. Et la première impression, j'étais une chef de parti d'un petit parti écolo qui aboyait sur Nicolas Sarkozy. Et je pense que c'est ça qui s'est imprimé dans la rétine des gens.
Moi, t'as été ministre aussi.
Oui, après. Mais la première impression, c'était celle-là. Après, quand j'ai arrêté, franchement, moi, je croyais un peu ceux qui me disaient, de toute façon, Duflo, elle est accro à ça, elle pourra pas faire autre chose, etc., etc. Et je m'étais posé la question à moi-même en me disant, moi, je crois pas. Mais peut-être que c'est les gens qui ont cet avis-là qui ont raison. Et en fait, non. Il y a quand même des choses exaltantes dans la politique. Il y a des choses harassantes. Et puis, la notoriété, c'est quelque chose de compliqué, en fait. Hein. Moi, j'ai bien aimé poser, pour une part, les valises de cette histoire-là. Donc, ce qui est particulier, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, qui est un peu inconfortable, hein, mais je reviendrai sur toutes vos questions. C'est que j'étais dans un endroit très tranquille où on dialoguait avec tout le monde et je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que j'essayais de dire ce que je pense justement en ayant la vision de ces différents endroits et en voyant une chose surtout, parce qu'on pense beaucoup à quel message s'envoie à la gauche, aux partis de gauche, aux politiques. Mais moi, je vois beaucoup mes collègues qui sont comme moi dans des associations qui sont très, très loin de la politique en disant « Oula, puis en plus, vous avez vu le niveau, faut se tenir très à distance. » Sauf que si en 2027, le pays bascule, on est tous morts. Et ça, pour le coup, ma collègue brésilienne, ma collègue américaine et mon collègue indien, Oxfam, a disparu en Inde. Je me rappelle très bien quand il m'a dit « Tu sais, il y a 2 ans, je vivais dans une démocratie normale. » Et donc, je pense qu'il y a aussi l'obligation peut-être de penser différemment son rapport à la politique quand on est issu de la société civile dans la France, en 2025.
Après, il y a eu Yannick Jadot qui venait aussi de Greenpeace, il y a Grégory Doucet aussi qui vient de l'associatif. Enfin, on a déjà vu pas mal de politiques venir dans ce sens-là.
Le chemin,
ça donne pas des politiques très différentes des autres.
Non, mais alors d'abord, je crois pas que les politiques ce soient des gens différents des autres.
Non, mais c'est une fois qu'on est dans le bain politique, de toute façon, là, ça y est.
Il y a des codes. C'est comme si tu te mets à faire du foot, même si t'es au départ un joueur de hand, tu vas pas jouer avec le ballon avec les mains, quoi. Tu vois. Donc c'est la politique, ça répond à des règles. C'est pas plus crade ou plus tendu que d'autres choses. Enfin, honnêtement, quand tu vois ce qui peut se passer dans le monde, dans l'entreprise, des fois il y a des choses qui sont vraiment pas glorieuses. Simplement, j'allais dire que parfois c'est plus intense ou t'as moins de temps de tu peux pas te relâcher. Voilà, je pense que c'est ça un peu la différence. Et puis moi, j'étais une femme jeune, d'avant MeToo. Hein. Donc, faut imaginer tout ce que j'ai encaissé sans savoir que j'aurais pas dû l'encaisser, en fait.
Mais moi, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'était que t'es allée vers l'associatif, enfin l'ONG, etc. Quand t'as perdu, donc en fait au final c'était pas un choix. Est-ce que t'aurais aimé continuer, par exemple ?
Non, non. En fait, quand j'ai perdu les élections, je me suis dit soit je gagne et je continue, mais si je perds, le truc normal c'est que t'attends 6 mois puis t'es élue députée européenne ou sénatrice. Je pense que j'aurais pu faire ça. Et là, moi, je me suis dit non, je fais autre chose. Et quand ce autre chose était très ouvert. J'avais pas forcément choisi et en vrai, je l'ai déjà raconté ici, j'ai répondu à une offre d'emploi hein, parce que moi, je suis pas fonctionnaire, je suis pas profession libérale. Quand j'ai arrêté la politique, j'étais au chômage et ils ont grandi maintenant, mais j'ai 4 enfants et donc le sujet c'était quand même de trouver du travail. Et comme mon métier d'avant c'était dans l'immobilier où j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de l'immobilier, je trouvais ça trop bizarre d'être une ancienne ministre du logement qui retournait dans cet univers-là. Donc c'était compliqué parce qu'en plus moi j'aimais beaucoup mon métier. Mais sauf que quand t'as l'âge que j'avais, c'est-à-dire 40 ans, et que tu dois chercher du travail et que t'es très connue, je peux le dire maintenant de façon détendue, c'est pas forcément évident. Parce que quand t'es recrutée par quelqu'un, il se dit, j'ai pas envie de rentrer dans la réunion avec la meuf, tout le monde dit, ah, c'est Cécile Duflo. Et donc tout le monde dit, ils ont qu'à retrouver du boulot, etc., etc. C'est pas forcément si simple, je le dis. Et par ailleurs, Oxfam, c'était le boulot de rêve, parce que je suis d'accord avec tout. Il y avait toute cette dimension internationale que moi, j'avais pas. Et je pense que je pouvais apporter aussi des choses à l'organisation pour la faire grandir, la rendre plus connue.
Donc, et c'est réussi.
Je crois, ouais.
Dans le paysage français,
maintenant. Ouais, ouais, maintenant, je suis une femme de 50 ans, je peux dire. Oui, je pense que j'ai coché les KPI.
On attend les rapports d'Oxfam à chaque fois.
Ouais, et on a beaucoup augmenté notre nombre de donateurs. Je remercie s'il y en a qui nous regardent. C'est ça qui nous permet notre liberté.
Est-ce que ce livre signe ton retour en politique?
Alors, j'ai regardé, si tu fais Duflo retour en politique, tous les ans, on l'annonce. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a des chroniques.
Mais moi, je l'ai annoncé plusieurs fois.
Voilà. Donc, depuis que j'ai arrêté, en fait, dès les européennes, 6 mois après, on s'est dit, Duflo va revenir, les municipales à Paris, puis les autres municipales, puis... En fait, mon sujet, c'est pas ça. Je le dis, et y compris sur la candidature à la présidentielle, parce que même moi, je me fatiguerais moi-même, justement, parce qu'il y a 72 candidats, tout le monde est candidat. Je les accable pas non plus, parce que dans la vie politique française, si t'es pas candidat à la présidentielle,
t'existes pas.
Ouais. Et donc il y a une sorte de double piège où tout le monde se pique d'être candidat à la présidentielle, mais si tu l'es pas, t'existes pas. Et donc je vois bien l'espèce de piège général dans lequel tout le monde se trouve. Donc pour moi, c'est quand je dis c'est une question débile et ça a fait rigoler Adèle tout à l'heure. Oui, parce que si tu le prends que par ce bout-là, j'ai jamais dit que j'arrêtais la politique jusqu'à la fin des temps. J'ai jamais dit non plus que je reviendrai un jour en attendant la date. Pour l'instant, je pense que justement, si on veut essayer de créer une énergie et un élan qui déjoue les pronostics qui sont quand même extrêmement noirs pour 2027, et je pense qu'on est tous dans le déni, tous ici dans cette pièce, essayons de réfléchir juste 30 secondes ce que ça veut dire l'élection de Bardella ou de Le Pen, sans attendre les législatives, parce qu'il ne faut pas se leurrer sur « non mais c'est pas grave, un mois, 2 mois après, il y aura les législatives, ils n'auront pas la majorité ». En un mois, avec un gouvernement, on peut dévaster
ce pays. Je crois qu'on est tous d'accord
qu'il s'agit
de battre, enfin de gagner, en effet, gagnons, ouais. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là, mais dans le bouquin, c'est un bouquin du coup d'intervention pour essayer de peser sur le débat public, c'est ça ?
Oui,
mais il y a une méthode, il y a une idée.
Exactement, pour essayer de proposer un truc qui s'appelle une stratégie. C'est pas seulement de se dire je pense mieux que les autres, et pour le coup, d'essayer de tenir les leçons de des trucs qui ont foiré.
Parce que, oui, mais quelle est-elle la stratégie du coup ? Parce que tu parles de social-écologie plutôt que d'éco-socialisme. Il y a quand même l'idée du recentrage. Hein, il y a l'idée de... Tu condamnes la radicalité un petit peu à gauche.
Non, je dis qu'il faut un programme de rupture.
Tu dis que c'est stérile. La radicalité, c'est stérile.
Ah oui, non, je pense deux choses. Un, que si on est convaincu que c'est par un discours extrêmement radical et, qui n'a pas de patience pour ceux qui ont des nuances qui sont différentes, pour dire les choses, la manière dont aujourd'hui LFI considère que c'est le programme, tout le programme qu'eux, et si t'es pas d'accord avec eux, en fait, ça ne va pas. Je pense pas que ça gagne. Je pense que ça peut éventuellement, et peut-être que c'est ça la stratégie, arriver au second tour, mais qu'est-ce qui se passe après ? Moi, mon sujet, c'est de se dire, pendant longtemps, il suffisait d'arriver au deuxième tour, puis t'étais face au Rassemblement National, et voilà, tu gagnais. Donc le sujet, c'était arriver au second tour. Je crains, et c'est dramatique, que ce soit plus du tout le sujet. Le sujet, c'est comment, justement, en étant second tour face au Rassemblement national, c'est pas le Rassemblement qui gagne.
Et donc aujourd'hui, pour ça, faut mettre de l'eau dans le vin un petit peu.
Ben, je pense qu'il faut être capable de s'ouvrir à des gens qui pensent pas exactement comme toi, et que notamment une des leçons que j'ai tirées.
C'est qui là, les gens qui pensent pas exactement comme nous, comme la gauche?
Ben, c'est des gens qui.
Les macronistes. Progressistes.
Le problème, c'est qui les macronistes? Moi, je le dis souvent, hein, j'ai beaucoup suivi la vie politique et donc je connais bien l'histoire. Jean-Luc Mélenchon, il est candidat pour la première fois en 2012. Une grosse partie de son électorat a voté l'élection d'avant pour François Bayrou. C'est une réalité, hein, quand tu demandes aux électeurs ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y a pas les macronistes, les machins, d'autant qu'aujourd'hui, les gens qui soutiennent Emmanuel Macron, ils sont quand même très, très peu. En revanche, qu'une partie des gens qui avaient voté pour la gauche ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, c'est une réalité factuelle, si tu additionnes le résultat. Sauf qu'aujourd'hui, bah, le résultat de la gauche en 2012, c'était 52%. Le résultat aujourd'hui, tout mouillé, c'est 29%. Donc il y a un hic. Où ils sont passés, ces électeurs? Est-ce que plus personne n'a envie de voter pour la gauche? Est-ce que les gens sont ailleurs et se posent des questions? Je pense qu'il faut raconter une nouvelle histoire. Voilà. Et je le redis aussi, parce que j'ai tiré le bilan de ce qui s'est passé entre 2012, où on arrive avec... Le Sénat est à gauche, l'Assemblée nationale est à gauche, le président de la République est de gauche, presque tous les départements sont de gauche, toutes les régions sauf une sont de gauche, toutes les grandes villes aussi, et on finit complètement en chaussettes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là? J'ai décidé de quitter le gouvernement en 2014, en disant « trop de trahison, plus Manuel Valls ». Et donc...
Dans ton livre, dans ton livre, tu dis que tu regrettes.
Je dis pas que je regrette.
Si tu le dis.
Non, je dis que c'est une erreur politique d'avoir cru qu'on allait... donner de la crédibilité à un autre chemin, qu'on allait revivifier la gauche, que tout ça, ça n'a pas du
les
tout marché. Les frondeurs, on était quatre, on va se le dire. Hein. Moi, j'aime bien qu'on soit un peu honnête. Christiane Taubira, oui. Arnaud Montebourg au gouvernement, Benoît Hamon, Cécile Duflot. Ils sont où, ces quatre-là? Arnaud Montebourg, il est, on ne sait pas trop où.
On commence à avoir des trucs
il
bizarres.
Il fait du miel, non?
C'est ça, c'est ce
lui,
que je
il
dis.
Se rapproche de l'extrême droite assez bizarrement.
Christiane, elle a été vaguement candidate et puis maintenant, elle est repartie en Guyane. Benoît Hamon, il est à la tête d'un groupuscule. Pour le reste, il a un engagement associatif. Mmh. Et Cécile Duflot, elle s'est barrée Oxfam. Donc, pardon de le dire, que notre grande opération, ça a complètement raté. Mmh. Voilà.
Par contre, il y en a un qui a gagné, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Exactement, ça a bénéficié à Jean-Luc Mélenchon. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, ça va bientôt faire 20 ans qu'il a cette stratégie. Il a quitté le Parti Socialiste en 2008. Et maintenant, ma conviction, c'est que Jean-Luc, son objectif, c'est vraiment d'être le chef incontesté de... son organisation, qu'il a souffert d'être minoritaire, parce qu'il a quand même été socialiste très longtemps, il a été ministre socialiste, il a beaucoup bagarré dans les congrès pour essayer de gagner, et là, il veut être le chef incontesté de son organisation. En revanche, je ne vois pas l'embryon d'un début d'une stratégie pour gagner en 2027.
Regarde, ce que te répondraient les insoumis, c'est qu'ils sont en progression nette sur chacune des élections présidentielles.
Le score de 2022,
on monte, et un jour, on sera au pouvoir. Qu'est-ce que t'en penses?
Au deuxième tour. Et aujourd'hui, et je sais bien que les sondages de second tour n'ont aucune valeur prescriptive, mais c'est quand même extrêmement inquiétant. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, la capacité de rassemblement d'une candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'on a le droit d'être objectif? Il n'y a rien de dynamique.
On voit aussi que le barrage républicain n'est pas mort, notamment chez l'électorat même macroniste.
Oui.
À gauche, il est franc et massif. C'est-à-dire, s'il y a un second tour avec Mélenchon, ça va voter Mélenchon, et pas de problème.
D'abord, c'est plus compliqué que ça. Pour plein de raisons. Et deuxième chose, en revanche, une partie de l'électorat de droite va directement.
Ah bah ça, c'est l'union des droites, c'est encore un autre.
Encore un autre. Mais moi, mon sujet, c'est que mon pays ne bascule pas dans les mains de l'extrême droite. Et donc, c'est pas évident. Et je dis peut-être pas que j'ai raison. Hein. J'essaye de proposer quelque chose en essayant de tirer des leçons. Je dis d'où je parle et je le dis à titre personnel, évidemment. Mais je pense aussi que l'ensemble de la société civile qui s'éloigne de plus en plus de la politique, eh ben c'est probablement, si jamais la catastrophe se produit, on sera très loin de la politique, mais pour une grande partie de nos organisations, on sera mort aussi.
Mais moi, je suis pas d'accord sur le fait que la société civile s'éloigne de plus en plus de la politique. Enfin, moi, quand je vois pour les élections législatives de 2024, il y a énormément d'associations, plein de groupes qui ont déclaré publiquement être contre l'extrême droite et qu'il fallait absolument faire barrage à l'extrême droite.
Exactement.
Et moi, ça m'a, enfin, y compris d'ailleurs les syndicats qui essayent d'avoir un peu une réserve, etc. par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression justement que la société civile s'engage de plus en plus, en tout cas frontalement, contre l'extrême droite.
Alors je le sais, d'autant plus que Oxfam a été très à l'initiative de son appel coalition 2024 pour rassembler une très très grande famille d'organisations. Sauf que depuis, après ce qui s'est passé, après ces fameux trois semaines de est-ce qu'il va y avoir un premier ministre ou pas de gauche, de tout le, la suite, il y a vraiment eu le sentiment que, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et il y a un reflux. Par ailleurs, cette mobilisation, on l'a pas fait contre l'extrême droite. Hein. Justement, on a fait une mobilisation qui disait voilà ce que ce serait, les points communs pour lesquels on se mobilise et qui seraient des sujets mis en danger par la victoire de l'extrême droite. Parce que le truc juste contre l'extrême droite, comme je le disais, c'est en train de trouver ses limites. Et il faut qu'on s'arrête avant que ça ait trouvé ses limites.
Malek, je prends le scrutin de 2022 parce qu'il est quand même super intéressant. Les 22% de Méluche à la fin au premier tour, face au score, je vais pas dire ridicule, on va quand même mettre du respect sur Yannick Jadot et sur Anne Hidalgo, et Fabien Roussel d'ailleurs compris. C'est bien qu'il y a le besoin d'avoir une ligne forte, assumée, et qu'en réalité... Là, ce que tu nous proposes, mais avec toute la diplomatie qui est la tienne, c'est un petit peu de mettre de l'eau dans notre vin. Et tu penses pas que c'est la leçon contre-productive, justement, envers tout le peuple de gauche qui, des fois, en réalité, si dans notre petit calcul, on se demande où ils sont passés, c'est parce que très souvent, ils se sont éloignés des urnes, finalement.
Alors, parce qu'ils se sont trahis.
Je pourrais raconter l'histoire où on prend pas que la présidentielle, on prend les élections. Et ça fait deux séquences immédiatement similaire. Vous avez la présidentielle, Jean-Luc fait un gros score. On pourrait s'interroger sur pourquoi, et notamment, il y a une réalité qui est que les gens votent pour celui qui peut gagner, y compris quand ils ne sont pas forcément d'accord. Et donc, croire que tous les gens qui ont voté pour toi, c'est comme François Hollande, hein, tout le monde n'était pas d'accord avec François Hollande au second tour de la présidentielle. Une grande partie des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ont voté pour François Hollande. Sauf qu'ensuite, LFI faisait un mauvais score, notamment à l'élection suivante. Puis ensuite, c'était les écolos, en l'occurrence les européennes. Yannick Jadot fait 13%. Il pense que ça y est, c'est bon, il y est, c'est fait. Et d'ailleurs, je le dis, ça me fait souvent sourire. Hein. On a une espèce de relation au score, 13%. Quand ton téléphone, il a 13% de batterie, tu cherches un chargeur. Tu ne dis pas que tu vas partir en rando. Et donc, tout le monde se dit, ça y est, je suis devenu le chef. Et ensuite, il y a les municipales, les écolos gagnent des villes, disent, OK, c'est bon, c'est nous les boss. Puis les régionales. Et là, c'est les socialistes. Et Fort dit, c'est autour de nous que va se rebâtir la gauche. Et rebelote la présidentielle. Et là, les insoumis étaient au lac. Petit exemple dont personne n'a beaucoup parlé, mais qui pour moi est important. Il se trouve que c'est la ville où je suis née et où je réhabite, qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, législative, juillet 2024, Louis Boyard, 60% au premier tour sur la commune. Municipal, moins de 6 mois après. Triangulaire, 2 listes de droite au second tour. Et une liste, Louis Boyard, y perd. Qui est élu ? Une femme soutien de Retailleau, ce qui est complètement dingue dans cette ville. Donc, les électeurs, ils ne sont pas attachés. Ils font des choix tactiques, ils font des choix à la fois opportunistes, de conviction aussi, mais en fonction des élections. Et donc, il n'y a rien qui est automatique. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je ne crois pas du tout que la stratégie qu'a choisie LFI, j'ai le droit de le dire, je pense que ça risque de nous emmener vraiment dans une situation hyper difficile.
Dans ton livre, tu expliques que la gauche doit renouer avec une certaine culture du compromis, aller chercher effectivement des personnes qui en sont parfois un peu éloignées. Quel regard tu portes, par exemple, sur la stratégie de compromis actuelle du Parti Socialiste dans le cadre des débats budgétaires ?
Est-ce qu'on peut dire un peu la vérité ? Il y a une Assemblée nationale qui est élue. Moi, ça m'épate. Franchement, et des fois, je me dis, est-ce qu'on pourrait juste... Regardez les yeux. Alors, c'est peut-être parce que moi, j'ai été chef de parti d'un parti où il fallait faire 60% pour gagner un vote, mais quand même. T'arrives au lendemain des législatives. Il y a donc, à la fin, 11 groupes. La gauche a fait 30%. Tout regroupé. Ce qui est un très bon score, puisqu'elle est arrivée en tête. Ça fait 2 ans qu'elle explique que c'est scandaleux que les macronistes gouvernent en étant minoritaires. Et la première chose qu'elle fait, c'est de dire, on veut... D'ailleurs, ce que dit Jean-Luc, le soir même, c'est tout notre programme, rien que notre programme. Gars, t'as fait 30%, c'est déjà super. Mais tu peux pas dire que tu vas gouverner tout seul.
Les
d'ailleurs,
macronistes,
ça n'a
c'est
pas
tout
marché.
Leur programme, hein, en attendant. Eux,
et alors,
pas, hein.
Et bah oui, exactement. Donc la gauche est arrivée en tête, et au final, on s'est tapé Retailleau. Bah moi, je suis désolée, mais ça me va pas. Donc je préfère un peu d'eau dans son vin, si c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, ce qui nous arrive maintenant, effectivement, plutôt que perdre tout le temps.
Moi, je vais pas parler de Mélenchon, tout ça, parce que je pense que t'as mieux à dire que tu reviens pas dans le débat public juste pour taper sur Mélenchon.
Mais je ne tape pas sur Mélenchon. Pardon de le dire, c'est qu'en 2015, quand moi j'ai quitté le gouvernement, je me suis dit, le mec qui peut nous faire gagner autrement en 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon et j'ai passé des mois à parler avec lui. Donc je n'ai pas de problème ni personnel, ni même comment dire sur une idée de stratégie politique. En revanche, je pense que la manière dont il gère les choses et sur les questions internationales Et sur d'autres sujets, il y a matière à discussion.
Bah justement, donc pour les, sur les questions internationales, maintenant que tu es à Oxfam et tout, enfin, tu vois les rapports sur les inégalités, tu sais très bien pour les milliardaires, tu vois les liens des milliardaires et des grandes entreprises avec les fascistes, le carbo-fascisme, hein, certains parlent de ça, les techno-fascistes maintenant, et tu vois qu'ils défendent évidemment le modèle extractiviste et que tout ça, c'est très lié. Mmh. Je pense que tu fais le lien entre le fait qu'il va falloir désarmer le capital parce que le capital a fait son choix. Et qu'est-ce qui pourrait commencer à désarmer le capital si ce n'est un programme de rupture, c'est-à-dire un programme anticapitaliste?
Alors Usul, ce qui
parce que
peut...
sinon on refait ça et puis on, mettons qu'une gauche centriste gagne, ben voilà, on en est dans cette situation-là.
Ce qui peut désarmer le capital, c'est de gagner et de réussir à faire voter la taxe Zucman. Et pour ça, faut avoir les gens qui votent la taxe Zucman.
Est-ce que ça désarme le capital, la taxe Zucman, vraiment? Là, je parle de démanteler Bolloré, moi, je parle. Non, mais c'est pas une blague.
Non, mais
c'est pas une blague. Il va falloir qu'on démantèle
Bolloré.
Pour le
coup, on va être d'accord. C'est là où, ce que je dis dans mon livre, c'est que je pense que sur un certain nombre de sujets, oui, il faut de vraies ruptures et qu'on peut faire de vraies ruptures sans crier.
Et j'ai pas crié.
Non, mais de façon générale, moi, je dis en souriant, quand on a mis en place l'encadrement des loyers, pour le coup, c'était un engagement même de François Hollande, c'était la première fois qu'on régulait de nouveau un prix depuis 1986. C'était extrêmement, ça a d'ailleurs dérangé beaucoup de monde. Mais on a réussi. Ensuite, ça a été défait, puis refait, etc. Donc je pense que si on veut réussir, en fait, moi je suis une écologiste qui perd beaucoup quand même hein, depuis 30 ans. Et donc je pense que non seulement ce qu'on propose, c'est une bonne chose, que c'est nécessaire, mais que pour cela, effectivement, il faut réussir à gagner. Et que si on ne gagne pas tout...
Je pense qu'on ne peut pas gagner avec la radicalité. En arrivant direct, en disant, je suis désolé, notre adversaire, là, c'est Bernard Arnault, c'est Vincent Bolloré. Et ça ne gagne pas. Il faut être dans le compromis.
Mais non, pardon, excusez-moi. Juste même au-delà de juste dire on est contre, aussi de proposer un vrai programme de rupture. Enfin, quand on voit en 2024, encore une fois, c'était parce qu'il y avait un programme, il y avait des propositions fortes qui, bah, en fait, enchantaient les gens en se disant, bah, en fait, si on arrive à gagner, enfin, moi, je parle des étudiants, par exemple, si effectivement on arrive à gagner et qu'il y a un revenu étudiant, c'est... Un autre monde est possible, j'en sais rien. Mais enfin voilà, il y a une autre réalité en fait qui s'ouvre à ces personnes-là. Donc est-ce que, enfin, vous pensez pas que les gens, et moi ça m'a frappé en lisant votre livre, c'est que, enfin, j'ai pas tout lu d'ailleurs, mais ce que j'ai lu en tout cas de se dire, bah, les gens sont, j'ai l'impression que vous pensez que les gens sont un peu pessimistes. Et enfin, veulent pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils voudraient avoir.
En fait, je trouve ça fait quand même deux élections de suite aux législatives qu'il n'y a pas de majorité. La Ve République, elle est programmée pour que ça n'arrive pas. Ça fait deux élections de suite. Normalement, dans un certain nombre de circonscriptions, les candidats macronistes auraient dû être vraiment défaits. Des circonscriptions qui étaient à gauche en 2012, par exemple. Ça n'est pas arrivé. Donc, ce que je suis obligée de constater, c'est que il y a peut-être, je ne sais pas si c'est une modération, une prudence, en tout cas tout un tas de gens qui, peut-être aussi parce que la situation, elle est brutale au niveau international, elle est angoissante, et qui se sont pas, ont pas voté massivement. Il y a des gens qui ont été enchantés, des gens qui ont fait la campagne avec cœur, etc. Mais au final, ça fait 30% de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ça ne fait pas une majorité. Et donc, j'entends bien, et puis je lis le chat, je vois bien que ça fâche sûrement plein de gens ce que je dis.
Les insoumis, surtout.
Ce qui me fait rire, c'est que je suis à d'autres endroits et je suis une horrible gauchiste, jalouse des gens qui ont de l'argent, etc., etc. Donc, ce que je dis souvent, c'est
que... Si tu es une droitarde.
Horriblement droitarde. Mais... Tant pis, parce que j'essaye d'être la même ici et là. C'est-à-dire que j'essaye pas de vous dire des trucs qui vous font plaisir ou des trucs qui font plaisir. Et en plus, j'essaye d'être honnête, y compris vis-à-vis de nous et de ce qu'on a fait. Et je sais qu'il faudrait tout le temps dire qu'on a toujours tout fait bien et qu'on va gagner et que ça va marcher. Mais moi, ça fait vraiment 30 ans que je suis une écologiste politique, maintenant presque engagée. Et je me souviens très bien au lancement d'une campagne présidentielle, et je dirais pas le nom, de la candidate d'un vieux militant écolo qui, c'était le meeting de lancement, qui était derrière la candidate et qui disait « En avant, vers les 3% !» Et on lui avait foutu des coups de latte. Mais il peut y avoir ça, et tout le monde était convaincu. Et tu sais quoi, les écolos avaient raison dans les années 70, ils avaient raison dans les années 90, ils ont toujours raison sur un certain nombre de choses. Moi, la question, c'est comment on fait pour embarquer tout le monde. D'abord, je pense qu'il y a une question de mûrissement de la société, au-delà des programmes, des gens qui disent c'est possible. Ensuite, il y a la capacité à entraîner plus largement. Et notamment, si on veut réussir, pas seulement à gagner une élection, mais ensuite à mettre en œuvre ses propositions, bah, il faut réussir à désarmé un certain nombre d'oppositions, et ça veut dire que certains, il faut les affronter frontalement. Mmh. C'est le cas de Bolloré, évidemment. Il faut réussir, et ce serait une des premières choses à faire, c'est de mettre en place un certain nombre de dispositions législatives, mais beaucoup de journalistes ont travaillé dessus pour qu'ils puissent élire leur directeur de la rédaction, pour qu'il y ait une limitation.
Loi anti-concentration.
Exactement, il y a des choses à faire. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, en vrai, c'est qu'on y arrive. Parce que vraiment, pour le coup, quand on a fait voter l'encadrement des loyers, quand je croisais des gens dans la rue qui me disaient « Franchement, grâce à vous, on a repris les cours de tango avec les économies qu'on a fait sur notre loyer », ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, je pense que la politique publique, ça peut changer la vie des gens. Et pour ça, il faut réussir à avoir les clés qui permettent de le mettre en œuvre. Et si pour ça, il faut être conscient que même si on est 100% d'accord, et surtout quand on est dans un milieu militant, on a l'impression que tout le monde va être d'accord avec nous, eh bien, je crois qu'on se gourre un peu. Voilà.
Non, mais le but du politique, c'est d'entraîner vers son récit les gens, même s'ils ne sont pas d'accord a priori. C'est vrai que là, j'ai lu, je voyais un imaginaire plus de sobriété. Ça ne fait pas vraiment rêver de fou. Hein.
Non, mais justement, la question, c'est comment tu dis, par exemple, comment tu fais lien, comment tu parles de sécurité dans un pays qui est quand même, pour le coup, qui est en souffrance dans un certain nombre de villes du fait du trafic de drogue. Il y a quand même des villes où il y avait un meurtre tous les 15 ans. Et là, maintenant, c'est plusieurs par an. Enfin, c'est une réalité et ça crée de la tension dans toute la société. Et c'est vrai qu'on se tient à distance de ces questions-là. Il y a des sujets qui sont compliqués.
Tu dis que la gauche ne doit pas se pincer le nez pour parler de sécurité.
Je dis qu'il faut être efficace. Et qu'être efficace, pour le coup, notamment sur la question de la drogue, c'est pas juste dire « la drogue, c'est mal ». Ça, pour le coup, et on a cet exemple, cette politique menée depuis très longtemps, ça ne marche pas. Il y a des exemples à l'étranger, au Portugal, par exemple, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'attaquer notamment à toute l'activité de blanchiment. On est en train de nécroser un certain nombre de quartiers. C'est la réalité, c'est une vérité de mettre en danger des générations. Mmh. Et donc ça nécessite effectivement de prendre le sujet à bras-le-corps et de pas avoir d'idéologie ni dans un sens ni dans un autre. Moi, je me souviens, le truc de base, c'était d'être contre la vidéosurveillance. Mmh. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que ces derniers temps, ce que ça a permis, les caméras, dans beaucoup de cas, et notamment très récemment, ça a été de révéler des cas de violence policière. Y compris avec des caméras de vidéosurveillance qui ont filmé, et des gens qui ont filmé avec leur téléphone. Donc, c'est paradoxal. Et je pense qu'on a avancé sur certains sujets de violence policière grâce au fait qu'on a eu des films, parce que juste les témoignages des gens, ça marchait jamais. Et donc, du coup, ça m'oblige, sur un certain nombre de sujets, à réinterroger des trucs qui apparaissaient comme gravés dans le marbre ou des certitudes. Et en tout cas, le backlash écolo, on est obligé de le constater, on est obligé de se dire comment on peut réussir à essayer de trouver les moyens de prendre la tangente. Ça a marché, par exemple, et à mon avis, la clé, c'est justement de systématiquement mêler les questions sociales et les questions écolo, confère le leasing social.
Rapidement, revenir un petit peu à de la popole, on reviendra sur le fond après. Tu défends la candidature de conciliation, de réconciliation. VS à la primaire que tout le monde propose en troisième voie, Marine Tondelier notamment. Pourquoi la primaire, selon toi, ce n'est pas un bon moyen d'arriver à une candidature qui réconcilie tout le monde, primo? Et deuxio, est-ce que tu penses que Marine se trompe quand elle se déclare déjà dans le timing, et de deux, quand elle s'engage dans un process de primaire?
Alors d'abord, j'ai parlé tout à l'heure du problème de la candidature à la présidentielle où tout le monde est obligé d'être candidat à la présidentielle, sinon il n'existe pas. Mais la primaire, ça fait trois choses. D'abord, tu es obligé d'être candidat à la primaire si tu es un responsable politique qui veut exister, sinon tu disparais. Donc ça multiplie les candidatures. Deuxième chose, si tu veux exister pendant la primaire, il faut que tu tapes notamment sur le plus gros. Parce que c'est comme ça que si tu es inconnu, c'est comme ça que tu deviens connu. C'est ce qui s'est passé avec Sandrine Rousseau pendant la primaire des écolos la dernière fois. Elle a été très vindicative et elle a eu beaucoup d'espace médiatique.
Et c'est ce que fait Glucksmann en ce moment avec Jean-Luc Mélenchon aussi.
Oui, mais pour le coup, et réciproquement.
Alors que les deux refusent un processus de primaire.
Et la troisième chose, c'est que comme tu as ces deux phénomènes-là, la réconciliation après des candidats pour réussir à faire la campagne ensemble... Eh ben, bon courage. Quand tu t'as expliqué que l'autre, il était horriblement de droite, qu'il était liberticide pour exister pendant la primaire, tu vas pas ensuite aller à côté de lui et dire c'est lui notre candidat. La seule qui a fait ça et qui l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, c'est Martine Aubry qui prend la main de François Hollande, qui la tient et qui dit notre candidat c'est lui. Et il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Regardez les dernières primaires. C'est totalement parti en sucette. Et donc, je dis, cette méthode-là où on se dit, comme ça, on va départager les gens, au final, tu mets un boulet au pied. Du candidat.
Donc comment on fait?
C'est pour ça que moi, ce que j'essaye de dire, c'est de dire qu'est-ce que c'est l'espace de cette candidature. Qu'est-ce que c'est, pour le coup, donc la blague, c'était « Ah bah si c'est un programme, du coup, t'es une candidate ». Bah, pas forcément. Tu peux dire c'est quoi le projet, parce qu'en plus, le programme définit ligne à ligne, tout le monde s'embrouille sur la moindre truc, ou en plus, t'es pas sûr que tu vas réussir à le faire, parce qu'entre-temps, il va y avoir je sais pas quoi qui va se passer aux États-Unis, etc. Donc de dire c'est quoi les valeurs communes, c'est quoi cette espèce de socle en commun, et l'horizon que tu veux dégager. Et justement, comme l'horizon que tu veux dégager, c'est comment tu considères que la justice sociale, c'est non négociable, et qu'aujourd'hui, les super milliardaires, ils mettent en péril pas seulement la justice sociale, mais la démocratie. Comme l'a dit un milliardaire à qui je posais la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent, il m'a dit, le premier milliard, on le dépense. Donc, tu peux, œuvre d'art, immobilier, tout ça, tu y arrives. À partir du deuxième milliard, on achète le pouvoir. Donc oui, très clairement, il faut arrêter avec cette situation. On le voit dans tous les pays du monde, c'est la même chose partout. Donc il faut réussir à arrêter ça. D'ailleurs, ce qui est pratique pour la France, c'est que ça fait quand même un matelas financier mobilisable qui ne va pas être facile. Et du coup, la question, c'est comment on fait ? C'est quoi les étapes ? Et je disais en souriant, peut-être qu'il faudrait inventer une nouvelle décoration, contributeur essentiel de la nation, qu'on va remettre aux gens qui payent au-delà de je sais pas combien d'impôts, vu qu'ils sont tous toujours très contents d'avoir un statut spécifique. Et je dis pas
que là, il y a un soutien dans l'opinion de s'attaquer aux milliardaires quand même.
Bien sûr.
C'est très porteur,
mais
même.
Y compris dans les électeurs LR.
Oui.
La taxe Zuckman, elle est soutenue même chez les électeurs des Républicains. Parce qu'il y a aussi un sentiment très profond en France de ce que c'est que la République. Et la République, elle s'est constituée sur l'abolition des privilèges. Et on est en train de reconstituer une société de privilèges. Mmh. Donc il y a beaucoup de gens, même en étant en désaccord sur un certain nombre de sujets, qui sont en accord avec ça. Les retraites, c'est pareil. Les retraites, 80% du pays était contre. Moi, je dis souvent, quand tous les syndicats de Solidaires jusqu'à la CFTC sont contre, quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, que le chef de la révolution à l'Assemblée s'appelle Charles-Amédée de Courson, et que 85% de la population est contre, t'arrêtes. T'arrêtes, tu décélères. Et donc là, évidemment, l'histoire regardera les deux quinquennats d'Emmanuel Macron de manière folle. D'être à ce point détaché de l'ensemble de son pays, c'est dysfonctionnel.
Mais pardon.
Non, je voudrais revenir sur un truc que tu as abordé rapidement. En 2012, la gauche avait tous les pouvoirs. Il n'y avait plus que l'Académie française qui était de droite.
C'est vrai, Jean-Pierre Bel président.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Le président.
Le Sénat, l'Assemblée, c'était lunaire. Cinq ans plus tard, la gauche, en tout cas celle issue du Parti socialiste, elle est dans les choux. Mmh. Comment tu l'expliques, toi ?
Je l'explique assez simplement. Pour le coup, j'ai écrit un bouquin en 2014 pour dire que, en fait, les gens ne s'attendaient pas, justement, c'est là où c'est intéressant, ils ne s'attendaient pas à ce que François Hollande, ce soit la révolution bolivarienne. Mais ils ne s'attendaient pas à ça non plus. Ils ne s'attendaient pas au CICE, plus.
La politique de l'offre.
Ce qui s'est passé après. Et pour moi, l'erreur absolue, donc l'erreur politique, elle est double. On quitte le gouvernement, et donc je pense qu'en fait, on a créé une voie d'eau, en fait, et ça a été irrattrapable. Mais c'est aussi une forme de radicalisation avec la nomination de Manuel Valls, avec la suite. Et puis, il y a eu, évidemment, on est le 13 novembre, et donc, on ne se souvient pas, mais le traumatisme collectif, il était quand même très élevé. Il y avait une grande crainte de ce qui pouvait se passer. Sauf qu'on est arrivé, et il n'a pas su s'arrêter à temps, sur la déchéance de nationalité, qui était un élément fondamental qui avait permis que des électeurs, pour le coup centristes, par désaveu de Nicolas Sarkozy, votent pour François Hollande en 2012. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et je pense que l'erreur, c'est en 2014, après quand même une défaite aux élections municipales très sérieuses, quand la gauche perd des villes comme Limoges, comme Roubaix, tu dois te dire, oula, slow down, quoi. Et donc là, il aurait dû, à mon avis, en tout cas, moi, j'ai plaidé pour ça. Hein, et donc, un jour, je me suis dit que j'allais écrire une uchronie où, en fait, au lieu de nommer Manuel Valls, il nomme Martine Aubry, première ministre.
Ça aurait eu de la gueule.
Et qu'est-ce qui se passe ? Et je pense que ça aurait pu se passer différemment. Et donc, les gens ne voulaient pas des choses totalement radicales à ce moment-là, mais ils voulaient quand même qu'un minimum de l'engagement qui avait été pris soit tenu.
Et oui, il y avait une aspiration à la justice sociale
exactement.
Qui était forte. Puis en plus, il y avait eu la crise de 2008 avant, il y avait eu le mouvement des places, Occupy Wall Street, etc. Il y avait quand même un renouveau quand même de demande de justice sociale dans le peuple de gauche.
Et pardon, on en parlait tout à l'heure, mais le soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon dit « Votez, mobilisez-vous pour le second tour et votez, faites voter comme si c'était pour moi ». Donc il y a eu un très gros soutien qui a été fait pour François Hollande. Et je pense qu'une des erreurs aussi, c'est que ce qui était à l'époque le Front de Gauche n'a pas fait partie de la majorité. Oui. D'ailleurs, la majorité...
C'est une erreur du PS, ça, oui.
Oui, et mon erreur, ma vraie, vraie erreur, c'est que pendant les deux années 2012-2014, donc j'avais été chef de parti pendant 6 ans, et pour dire les choses, j'en pouvais plus. Enfin, j'étais épuisée. Donc je me suis concentrée pour essayer d'être une super ministre du logement. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, mais j'ai complètement lâché la question de la vie de la majorité, et on aurait dû être beaucoup plus incisif pour obliger au dialogue avec tous les gens qui avaient contribué à l'élection de François Hollande en 2012.
Lorraine ?
Non, moi je voulais juste... en fait, je trouve que tu n'as pas trop répondu sur la question de la primaire. Ok, on
oublie.
On oublie.
Oui, c'est nul.
Il y a effectivement la question du socle commun, on est contre les milliardaires, enfin voilà, des choses qui font assez consensus. Mais du coup, concrètement, comment on fait pour désigner un candidat ou une candidate pour 2027 ?
Bah déjà, enfin quand je dis on,
enfin je dis on la gauche. Hein.
Ouais, mais en tout cas moi ce à quoi je crois, c'est que cet espace-là, la sociale écologie, qu'on peut définir en allant de tout un tas de gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon parce que aussi ils pensaient que c'était celui qui avait le plus de chances d'être au second tour, pas forcément parce qu'ils étaient convaincus, à toute une partie de gens qui ont pensé que Emmanuel Macron ça pouvait être une bonne solution. Et qui sont totalement déçus. Ceux qui sont encore fans, je ne dis pas du tout qu'il faut faire avec les gens qui pensent que ce que fait Emmanuel Macron et Gabriel Attal est formidable. Je vois bien que ça n'a aucun sens. Donc ce n'est pas ça. C'est des gens qui ont cru et qui sont déçus. Et que cet espace-là, bah, il dégage un horizon un peu inventif, capable de mobiliser. Et qu'ensuite, bah, ça décante de ça. Tu constitues une équipe et de cette équipe, tu réussis à avoir une incarnation. Parce que je crois profondément, pour le coup, c'est une leçon que j'ai prise à l'époque d'Europe Écologie, que quand tu as plusieurs personnes qui sont différentes dans une même équipe, c'est très efficace électoralement. Au moment où on lance Europe Écologie, c'est autour de Dany, des gens qui veulent qu'il soit candidat, et pour eux, c'est même pas en rêve qu'il puisse y avoir José Bové. On sort du débat entre le oui et le non. Dany a incarné le oui. 100% le oui. Bové a incarné 100% le non. Donc les gens autour de Dany, ils sont vent debout contre cette affaire. Et les gens autour de Bové, ils sont tout aussi vent debout. Ils disent, on ne va pas aller avec ce mec de droite. Et moi, je me souviens très bien, puisque le premier moment où ils se rencontrent pour en parler, je suis là. Et je me suis dit, quand je les vois parler et échanger, je me dis, ça a de la gueule quand même. Et au final, ça a beaucoup plu aux électeurs. Parce qu'une partie des gens avait envie de dépasser cette histoire-là. Et donc, ce que nous, on croit dans des cercles militants, où on pense que plus on clarifie, plus on synthétise, plus on est précis, plus on exclut les gens un peu déviants, plus ça marche, et c'est peut-être le propos de ce livre, c'est qu'en fait, la réalité dans un cercle qui n'est pas le cercle militant, c'est que c'est plutôt le contraire. C'est que les gens considèrent que c'est peut-être un peu stabilisateur que ça aille, comme en 97, de Strauss-Kahn jusqu'à Dominique Voynet, en passant par Jean-Pierre Chevènement.
Mais et comment... Jean-Luc Mélenchon.
Et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr.
La question, c'est comment on sort les gens de la merde? Comment on reconstruit les services publics? Comment on taxe les riches, évidemment, etc. Comment on reconstruit une société qui fait un peu sens, quand même, y compris voilà, inventer peut-être de nouveaux services publics, enfin un peu de souffle, etc. Est-ce que c'est possible de faire ça avec des macronistes, des anciens macronistes, ou des gens qui ne souhaitent pas ce monde-là?
Bah, d'abord, il y a parmi les gens qui ont voté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui votent. Parce qu'à la fin, si tu es démocrate, et c'est ce que je suis, tu penses qu'il faut convaincre les gens qui votent et qu'ils donnent le mandat de faire. Pardon ?
Les abstentionnistes.
Les abstentionnistes, ils votent comme les gens qui votent. Ça, c'est vraiment la leçon qu'il faut connaître. C'est qu'il n'y a pas un réservoir d'abstentionnistes qui seraient d'accord avec toi et qu'il suffit que tu ailles les chercher, ils vont tous voter pour toi. Les abstentionnistes, quand on leur demande ce qu'ils auraient voté, en général, ils auraient voté comme le résultat de l'élection. Je sais, c'est désagréable parce que pour le coup, c'est le discours des écolos d'avoir dit de toujours. En fait, nous, si les abstentionnistes votaient, YOLO, on serait majoritaire. Faux. Faux, faux. Les abstentionnistes, quand on leur pose la question, bah, ils votent. Et d'ailleurs, c'est des gens qui votent pas parce qu'ils avaient mieux à faire, parce qu'ils allaient déjeuner. Enfin, nous, ici, même vous, vous êtes hyper investis, hyper concernés. Dès qu'on prend un tout petit peu de distance, on comprend qu'il y a plein de gens qui sont très loin de la politique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas à un moment voter. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé l'été 2024 est très intéressant. Il y a des gens qui ne sont pas allés voter, qui se sont dit « Ouh là là, ça, d'habitude je ne m'en mêle pas, mais là ça craint, donc j'y vais ». Et ça, c'est très important parce que ça, quand même, ça nous évite d'être totalement désespérés de la perspective de 2027. Mais réussir à comprendre, et pour le coup, c'est peut-être la leçon du départ du gouvernement, que les gens ont plus d'appétence. En fait, et peut-être que c'est juste aussi très intelligent de se dire on va mettre des gens qui sont pas tous d'accord, comme ça ils vont être obligés de se parler, à la fin ça va être un peu plus posé. Parce que pour le coup, élire un mec tout seul qui décide lui tout seul, Je pense qu'Emmanuel Macron a vacciné la société française. Et c'est pour ça que c'est une erreur aussi de s'arc-bouter sur l'individu candidat à la présidentielle. Parce que je crois que personne n'a envie de donner un chèque en blanc à n'importe qui individuellement.
L'individu, et je suis d'accord avec toi sur les municipales, je le vois là. Donc sur Argenteuil, Aulnay, on est sur des territoires où là, clairement, les individus, les gars s'en tapent. Mais par contre, quand on leur dit « Ah !» Ok, il y a un truc, il y a un gap entre tout le programme, rien que le programme, ce que défend Jean-Luc, et bah tiens, on va commencer à bon ça on le met de côté, ça aussi on le met de côté. Tu sais, il y a aussi un truc moi qui me revient de tous les quartiers populaires qui sont partis voter en 2024, c'est aussi parce qu'il y a un candidat qui a parlé très fort, et en l'occurrence c'était Jean-Luc, qui a parlé très fort d'antiracisme. Là où des autres partis de gauche se cachent quand il faut le faire. Je le dis hein, sans aucun problème. C'est pas qu'ils disent que oui, il faut aller tabasser tous les rebelles, tous les renards de ce pays. C'est pas ce qu'ils disent.
Je crois pas que les écolos soient les pires.
Non, mais j'incrimine pas les écolos en disant ça. Mais tu vois, sur quoi sur quoi, pas on recule, mais oui, sur quoi on recule en fait.
Bah moi, je pense que pour le coup, faut pas reculer. Alors quand je parle de la manière de le dire et du fait qu'il puisse y avoir des étapes, ça ne veut pas dire qu'à la fin, on réussit pas à avoir des objectifs beaucoup plus larges. Quand j'ai commencé à être ministre, il y a un ancien ministre du logement que j'ai rencontré, pour lequel j'avais beaucoup d'estime, qui s'appelle Louis Besson. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui le connaissent, mais Louis Besson, il a une histoire particulière. Il a été au PSU et il a été anticolonial pendant la guerre d'Algérie. Il était il faisait partie de ceux qui s'exprimaient de façon extrêmement claire contre ce qui se passait en Algérie. Ensuite, il a été ministre du logement et il a à son actif la loi SRU, la loi qui oblige à faire 10% à l'époque de logement social.
Que les délinquants
mais
ne respectent pas.
Aussi, bien sûr, mais aussi la loi qui oblige à faire créer des aires de gens du voyage. Et ça, quand même, je peux vous dire que ce n'est pas le truc le plus populaire à faire, y compris avec des élus de toutes locaux, de toutes tendances politiques. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il fallait cranter. Il m'a dit, c'est pas grave si tu n'as pas tout de suite, crante. Crante, peut-être que ça va reculer, mais ensuite tu reviendras. Et d'ailleurs, la loi SRU, elle a été votée, défaite, refaite. Et donc, cette idée que tu peux cranter, que petit à petit, moi je pense par exemple que si une gauche sociale écolo était au pouvoir, il faudrait aller plus loin que l'encadrement des loyers d'aujourd'hui. Parce que dans un certain nombre d'endroits, ça a continué à monter. Donc, comment on fait baisser le prix de l'immobilier? On est à un niveau aujourd'hui.
S'attaquer à la propriété?
Pardon ?
Il faut s'attaquer à la propriété.
Eh bien, ça, c'est intéressant. Par exemple, moi, j'ai manifesté avec le DAL, même depuis les premières manifs. J'étais allée à la rue du Dragon et j'ai manifesté au cri de application de la loi de réquisition. Et puis, j'ai essayé de le faire. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que dans la Constitution française, le droit de propriété est très préservé et pas le droit au logement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Belgique. Et donc, je me souviens avoir discuté avec Babar et essayer de dire qu'on mêle le droit au logement dans la Constitution. Ça, c'est un vrai combat militant.
Ça va être compliqué avec des macronistes. Hein. Vous avez vu Kasbarian qui se félicite des expulsions.
Alors, Kasbarian, c'est un autre cas.
Il est chez Macron.
Pardon ?
Il est chez Macron.
Mais non, mais moi, essaye pas de me faire dire que moi, je défends les macronistes. Enfin, je suis contre tous leurs trucs depuis très longtemps. Et pour le coup, moi, j'ai fréquenté Emmanuel Macron à l'époque où il était au cabinet de François Hollande. Et j'ai compris très vite qu'il n'était pas du tout, par exemple, écolo, qu'il était même très à l'ancienne. Et que donc, j'ai eu aucune surprise. Ceux qui ont pu penser en 2017 que ça pouvait être une solution, etc. Moi, j'ai jamais été dupe. Je l'ai connu bien plus tôt. Donc, n'essaye pas de me faire dire. Je parle des gens qui ont voté pour lui. En 2017, ils ont été plus nombreuses à voter pour lui que pour Benoît Hamon, que pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un fait. Et ces gens, ils croyaient à ce truc, et de droite et de gauche, on va prendre les gens intelligents. Ça a marché. C'était une escroquerie, pour le coup, pour de vrai, parce que c'est pas du tout ce qu'il a fait. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se dire que chez une partie de ces gens-là, qui sont déçus, qui sont même pour certains très mécontents, autant de ceux qui avaient été, comme des gens qui avaient été déçus par François Hollande, c'est pas des gens qui peuvent voter pour cette orientation politique-là et la rendre victorieuse. Parce que moi, je préfère qu'on débatte de savoir si ça va ou pas assez loin, l'encadrement des loyers ou la fiscalité des plus riches, plutôt que, même si on fera tout ce qu'on peut, qu'on se débatte avec un gouvernement d'extrême droite qui va faire le plus de mal à ceux dont tu parlais, c'est-à-dire ceux qui sont français pour certains depuis des générations, mais à qui on oppose encore le fait qu'ils n'ont pas tout à fait leur place, avec un discours raciste insupportable en 2025.
Sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait d'aller chercher des électeurs potentiels, des gens éloignés de la politique, des abstentionnistes, c'est exactement ce pourquoi on a créé Baxit, c'est pour s'adresser d'abord à ces personnes-là. Les militants, les gens convaincus, sont pas du tout notre cœur de cible, et c'est effectivement un travail qui est, je pense, nécessaire. Justement, à ce sujet-là, tu te souviens, on s'était battu ensemble pendant la présidentielle 2022 pour imposer la question climatique, la question écologique au cœur du débat présidentiel. Vous aviez, avec l'affaire du siècle, saisi les médias traditionnels en demandant l'organisation d'un débat entre les candidats sur ce sujet, sur une chaîne de télévision par exemple. Personne n'avait voulu le faire. Du coup, on l'avait fait nous-mêmes. On avait fait le débat du siècle. On a fait notre taf. On a offert aux citoyens un moment où les candidats ne parlent que de ça. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la place de la question climatique dans l'agenda médiatique ?
Oula. Bah là, on est dans un moment de backlash écolo hyper fort où certains même prospèrent en se disant en étant anti-écolo, ça nous aide. Mais il faut se dire pourquoi ça marche. Enfin, moi, c'est ça mon interrogation. En revanche, pour le coup, je peux dire une vraie satisfaction. C'est que cette année, le débat budgétaire, il s'est fait sur la question de la taxe Zuckman, des super-héritages et du pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, le truc le plus techno que tu puisses imaginer. L'année dernière, on était sur l'aide médicale d'État. Eh bien, quand on déplace la conversation publique, on déplace aussi la mobilisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai décidé d'aller chez Oxfam. C'est que je me suis dit, en fait, une organisation qui a un authentique agenda politique, parce qu'on a des valeurs, on a des convictions, mais pas partisans. On ne se présente pas aux élections, on ne va pas soutenir de candidats. Mais on peut réussir à peser dans le débat public. Et honnêtement, les super héritages, pour le coup, je le dis, c'est 100% nous, parce qu'on a commencé à travailler sur ce sujet en disant les politiques veulent jamais toucher aux droits de succession, jamais, parce qu'ils disent les gens détestent. Et c'est vrai, 80% des Français, dès qu'on fait des sondages, alors que 80% des Français ne paieront jamais de droits de succession dans leur vie. Donc pourquoi les gens qui ne paieront pas de droits de succession sont contre les droits de succession ? En y réfléchissant, je pense que tout le monde a dans un petit coin de sa tête l'idée que peut-être...
Un jour,
il y a une grand-tante inconnue qui a fait fortune on ne sait pas où, qui te lègue quelques millions d'euros. Et c'est pour ça qu'on a travaillé en disant, très bien, on fait les super héritages au-delà de 13 millions d'euros. Comme ça, tu te dis, même si tu as l'héritage, tu es tranquille. Et du coup, on a pu rentrer dans ce débat-là parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme scandale et une énorme réserve d'argent qui se trouve dans l'organisation du blanchiment d'une partie de l'héritage des milliardaires pour éviter que leurs successeurs ne payent de droits de succession.
En ce moment, il y a la COP30 qui se réunit au Brésil sans les États-Unis. Est-ce que tu penses que ça sert encore à quelque chose, les COP ? Ou est-ce qu'on est passé à autre chose et que c'est plus utile ?
Pour le coup, on a dit on parle pas beaucoup d'écologie. Au moins là, quand même, on est obligé de mettre un peu le sujet.
C'est pour ça que je t'interroge dessus.
Et ce que je trouve intéressant, c'est pour le coup, c'est là où on voit que c'est mieux quand c'est Lula que quand c'est Bolsonaro. Hein. Imaginez la même COP. Moi, je le dis. Imaginez la même COP avec Bolsonaro. C'est pas la même histoire. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que moi je veux gagner. C'est parce que j'ai vu ce que ça fait. Et d'accord, c'est pas satisfaisant. Et on a fait beaucoup de conneries. À la fin, il reste quand même le mariage pour tous et l'encadrement des loyers, plus deux, trois petits trucs. Mais c'est quand même mieux.
Les critères de pénibilité, t'en parles ?
Ben oui, c'est-à-dire que là, on se dit, en fait, le débat sur les critères de pénibilité, c'était quand même mieux que la retraite à 64 ans, même si c'était pas satisfaisant. Donc, et c'est très bien, pour le coup, je vais te dire, moi, quand j'étais, et d'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des gens qui veulent faire ça, quand j'étais ministre du Logement, j'avais un gros problème, c'est que j'avais face à moi, jour après jour, le rouleau compresseur, avec beaucoup d'argent, de tous les professionnels de l'immobilier pour essayer de faire échec à la loi Allure. En face, il n'y avait pas du tout d'associations de locataires du parc privé. Il n'y en a pas, ça n'existe pas en France.
Pourtant, c'est vrai, t'as raison.
Il n'y en a pas.
Je ne connais pas.
Cherche, il n'y en a pas. Il y a des associations de locataires dans le logement social, qui d'ailleurs ont des lieux de débat formalisés, des concertations obligatoires, mais des locataires classiques, comme les uns et les autres, il n'y en a pas. Et j'aurais voulu qu'il y en ait qui disent, franchement, Duflo, ça va trop loin, elle lâche tout aux professionnels de l'immobilier, faut arrêter avec le complément de loyer. Mmh. Ça m'aurait aidé. Moi, je me bagarrais dos au mur avec en face de moi que les mecs de l'immobilier. Et donc, c'est très bien qu'il y ait des gens pas contents, y compris quand il y a un gouvernement de gauche écolo, pour dire que c'est pas satisfaisant, parce que ça permet de retrouver un équilibre. Et au final, tu fais pas tout bien. Par exemple, dans la loi Allure, honnêtement, sur Airbnb, on était très en deçà de ce qu'on aurait dû faire. Mais à l'époque, le sujet était pas aussi fort.
Ouais, c'était moins, ouais.
Ouais, mais je vois bien les choses.
Et maintenant, sur Airbnb, parce qu'on a eu Yann Brossa il y a pas longtemps, on a parlé un peu d'Airbnb aussi. On fait quoi d'Airbnb ? On interdit ?
Moi, je pense qu'il faut, pour le coup, ce qui est marrant, il y a deux choses marrantes. D'ailleurs,
limite.
Tiens, je vais donner un exemple. L'encadrement des loyers. Pour le coup, c'était vraiment un débat gauche-droite. Je me faisais fracasser à l'Assemblée par les gens de droite parce que j'étais bolchevique, etc., etc. Et maintenant, il y a des maires de droite, puisque la disposition de la loi Elan arrive à terme en 2026, des maires de droite qui étaient contre, qui disent « nous, il faut que ça reste », parce qu'ils voient bien le problème. Donc là, pour le coup, l'arc politique des gens qui soutiennent le maintien de l'encadrement des loyers, ça va de LFI jusqu'au LR. C'est la réalité, parce que c'est des maires. Et donc, je pense que sur Airbnb, il faut donner beaucoup de pouvoir aux élus locaux, parce que eux, ils savent. Et eux, ils peuvent être beaucoup plus efficaces que si on prend des mesures nationales.
Est-ce qu'ils ont l'échelle pour lutter contre Airbnb ? Est-ce que c'est pas au contraire au national de... Parce que c'est un gros morceau, quand même.
En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'au national, tu crées une boîte à outils législatifs que les élus peuvent utiliser. Ouais. Pour interdire complètement, pour obliger à des compensations. Le vrai scandale d'Airbnb, c'est quand même qu'ils avaient une fiscalité beaucoup plus favorable. Parce qu'en plus, au-delà du fait que ça prive des gens de logement, ça fait que des commerces s'écroulent, ça fait que t'as des villes qui sont vides, des quartiers qui sont vides pendant une partie de l'année, que la ville va pas bien. Enfin, tout le monde commence à voir aussi les effets que ça produit. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas des gens que ça arrange bien de louer leur appart deux semaines en été. Donc on peut aussi doser dire que, par exemple, c'est ce qu'on a mis dans le rapport que Oxfam a fait sur logement, on peut dire que c'est que des résidences principales. Donc on autorise les gens à louer quand ils sont en vacances, ce qui était d'ailleurs l'idée initiale d'Airbnb.
Lorraine, ouais.
En fait, du coup, on parlait de base d'écologie et en fait, tu viens du parti Europe Écologie Les Verts. Quel regard tu portes aujourd'hui sur eux ? Parce que par exemple, on a vu pour la réforme des retraites, ils étaient assez divisés. Il y en a qui se sont abstenus, il y en a qui ont voté pour. Et on est quand même dans une situation où la planète ne peut pas attendre. Donc, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui Europe Écologie Les Verts a une bonne stratégie, justement, parce qu'on parlait de stratégie sur politique ? Est-ce que là, leur entre-deux, entre eux, en essayant de à la fois réconcilier le PS, à la fois réconcilier le PS et LFI, est-ce que leur stratégie aujourd'hui est bonne ou est-ce que si, je ne sais pas si d'ailleurs tu es encore encarté à ELV, mais si tu l'étais, est-ce que tu ferais les choses différemment?
Alors, d'abord, je fais très gaffe à ce que Mémé Cécile, qui a un avis sur l'étendoir, sur le fait qu'il vaut mieux mettre de la poudre dans les lave-vaisselles, fasse pas non plus trop. De commentaires sur les gens qui, pour certains d'entre eux, sont encore des amis, qui essayent de gérer des choses compliquées. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre de façon plutôt inversée, en disant qu'est-ce que je crois qu'il faudrait faire, pas est-ce que je pense qu'ils font bien, pas bien, etc. Mm-hmm. Chacun fait un peu comme il peut.
C'est moins vendeur.
Bah oui, je sais. Non, mais j'ai bien conscience de ça. J'ai bien conscience de ça. Pour le coup, franchement, pardon de dire, hein, mais je suis chamois de platine en popole. Donc je sais que qu'est-ce qu'il faut dire comme petite phrase, à qui faut filer un taquet, que je disais des trucs désagréables sur Marine Tondelier, ce serait écrit partout.
Il y aurait des gros titres.
J'essaye de dire, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Moi, je crois profondément en l'action politique. Je pense que ça peut vraiment changer les choses. Que ceux qui disent, de toute façon, on peut rien décider du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Dans le chat, ça te dit, est-ce que ELV a même une stratégie tout court aujourd'hui ? Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens aujourd'hui sur l'écologie, en termes de stratégie ?
Ce que je constate, c'est que pendant longtemps, l'écologie dans le champ politique, c'était vraiment concentré dans un parti politique. Moi, j'ai vécu une époque où les autres n'en parlaient pas du tout, ou même certains, ils ne comprenaient pas, enfin, ça les dépassait. On peut pas dire ça. D'abord, parce que Jean-Luc Mélenchon, dès 2012-13, a commencé à parler de ce sujet-là, et donc à changer un peu son logiciel. Ensuite, parce qu'une partie des socialistes a aussi beaucoup évolué. Et enfin, parce que je pense que ce qui s'est passé, notamment pour le coup, je sors du champ politique, il y avait beaucoup de tensions entre les syndicats et les écologistes. Parce que les syndicats disaient, nous, c'est l'emploi maintenant et les gens d'aujourd'hui et les humains. Et les écologistes disaient, c'est les générations futures, la biodiversité, l'écosystème et le climat. Et donc, il y avait cette espèce de
confrontation
qui rendait le dialogue difficile. Moi, j'ai vécu une époque où, quand tu étais au bord des manifs, les écolos, ils se planquaient quand le cortège de la CGT arrivait. On a fait l'alliance écologique et sociale ensemble, même si depuis, la CGT en est partie. Et donc, je pense qu'il faut réussir. Moi, je crois que les partis politiques, c'est périssable. On le voit dans l'histoire. Et que là, en gros, c'est une conviction très personnelle. C'est que je crois qu'il faut réussir à associer l'histoire du mouvement ouvrier, donc des combats historiques de la gauche et de cette conscience très forte que les injustices sociales, si on ne les combat pas, elles se perpétuent, voire elles s'amplifient, Deuxième chose, les idées de l'écologie politique, c'est-à-dire la déconstruction du productivisme. La sobriété, c'est-à-dire que parce que la décroissance, c'est un mot, ce débat-là, c'est un mot qui a été pris pour être un mot au but, pour forcer le débat. Mais la transition écologique, c'est aussi la croissance d'un certain nombre d'activités et la décroissance d'autres. C'est la décroissance des fossiles, la croissance du renouvelable. Voilà. Et enfin, avant je disais juste ces deux points-là et maintenant je rajoute l'expérience de l'exercice du pouvoir de la social-démocratie. D'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé avec François Hollande, c'est que ça ne s'est plus réduit qu'à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y avait cette alternance un peu normale et c'est notre tour de gérer et on gère. Et ils avaient un peu perdu quel est le cap. Et donc là, le sujet, c'est de définir ce cap. Et je pense que cette famille-là, elle recoupe pas les frontières des partis politiques existants. D'abord parce que elle en englobe plusieurs. Mmh. Ensuite, parce que je pense qu'elle doit embarquer des gens qui, aujourd'hui, sont à distance des partis politiques. Parce que une des autres difficultés dans l'exercice du pouvoir, c'est la manière dont on conçoit les relations avec la société civile organisée, notamment les syndicats, mais aussi avec l'ensemble des citoyens. Pour le coup, la conférence citoyenne sur le climat, c'était un très bon exercice. Parce que, pas seulement sur le résultat, mais parce que moi, j'ai entendu un matin à la radio, je crois qu'il était concessionnaire automobile, et il disait, bah oui, moi je suis favorable à ça. Et on disait, mais quand même, il dit, bah oui, je sais bien, je vais pas vous dire que ça me ravit, mais je pense qu'on est obligé de faire ça. Et j'ai trouvé que c'était fort que ce soit pas un écolo classique, mais quelqu'un qui avait été convaincu, qui porte cette parole-là, que ça portait plus de sens pour tout un tas de gens que justement on veut ramener dans cette histoire. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on y aille tous, et en plus que ce soit une histoire française. Pour le coup, quand on se compare avec les autres pays, on est un petit pays, la France, hein, mais dès que tu vas à l'étranger, tu te rends compte que les Français, ils se la pètent quand même. Enfin, tous les autres, ils sont quand même beaucoup plus modestes. Nous, on est là, ouais, c'est la France. Après, on a raison. C'est le pays du monde dans lequel viennent le plus d'étrangers pour visiter. On a plein de choses hyper précieuses. On est regardé de façon à la fois parfois un peu taquine, mais avec un peu d'envie sur la mobilisation de la société civile, sur notre capacité à faire grève, sur la Révolution française, sur l'abolition des privilèges, sur plein de sujets. Et donc, est-ce qu'on ne réussirait pas à se lancer tous dans cette histoire de dire la France va montrer au monde qu'on peut faire cette transition écologique juste, où on mêle tous les combats ensemble. Et puis on dit, nous on est capable, on va y arriver.
Gagnon, c'est aux éditions Les Petits Matins. Merci beaucoup Cécile Duflot d'être venue sur le plateau de Backseat.